Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Un Monde Nouveau, le magazine qui sème des graines de futur. Aujourd'hui, je ne vous parle pas des plantes, je parle avec les plantes.
Voilà, je le savais, cette plante peut parler.
À commencer par Gilles Clément, le jardinier, philosophe et paysagiste du futur, s'est transformé en herbe libre dans son dernier livre « Notre-Dame des plantes », une herbe qui parle et qui défend une utopie. Et si on faisait de Notre-Dame de Paris une serre et de son parvis un jardin ?
C'est un scandale ! Un scandale !
En tirant le fil vert, je suis tombée sur de drôles d'agronomes. Ils ont mis au point une machine qui traduit la langue végétale en langue musicale. Vous l'entendrez avec la botanique, le dialogue avec le vivant n'est plus une théorie, c'est une pratique artistique. Quitte à être envers et pas forcément contre tout, j'ai choisi un album de saison, celui du duo électro Polo et Pan. Les deux pollinisateurs ont fait le tour du monde avec leur canopée. Et reviennent planter dans notre été de nouvelles moutures.
France Inter. Mathilde Serrel. Un monde nouveau.
C'est parti pour le brassage planétaire de la culture et des idées jusqu'à 19h. Bienvenue dans un monde déjà nouveau sur France Inter.
Choices start, came two by two, will it come for you? Noah built the ark, before the day was dark, run from the fray, and we'll sail away. And the waters rise, thunder in the skies, and the waters rise, on the plank for the last light dies.
Side to side.
Depuis ces montagnes bleues des Cévennes, le musicien Pierce Faccini sur France Inter. À l'instant, c'était All Abroad, un titre mobilisateur sur lequel il embarque son international musical, l'américain Ben Harper et le marocain Abdelkebir Merchan. C'est un écologiste convaincu et un homme résolument tourné vers l'avenir. Il a fait du jardin un territoire d'espérance et plante ses concepts un peu partout. Paysagiste, botaniste, philosophe, avec lui le vivant reprend ses droits et évolue librement à nos côtés. Son dernier projet, faire de Notre-Dame de Paris une Notre-Dame des plantes en végétalisant la cathédrale. Gilles Clément, bonjour.
Bonjour.
Et bonsoir. Oui. Vous venez de publier un nouvel essai, donc Notre-Dame des Plantes chez Bayard, et pour l'occasion, vous vous êtes transformé en herbe, je le disais tout à l'heure. Comment vous y êtes pris?
Alors, c'était un choix, bien sûr, qui permettait une grande liberté dans le dialogue avec le préposé aux affaires sacrées, qui lui est censé connaître toutes les choses les plus importantes à protéger, à continuer à vénérer, à ne pas spolier, bien sûr.
C'est un peu l'autorité du passé, le passe, le préposé aux affaires
bien
sacrées.
Bien sûr, oui.
Voilà. Et vous, une herbe d'avenir?
Alors, ça peut pas, c'est pas forcément moi, mais ça peut aussi être quelqu'un comme moi. Disons que c'est une herbe qui parle, ou un humain qui se prétend être une herbe, ou se met à la place, en somme, d'un être végétal, et qui entre en dialogue. Alors c'est quelque chose que j'ai mis au point sans véritablement l'avoir prévu au départ, puisque c'est une commande. Hein.
Oui, vous aviez prononcé une phrase à l'École nationale d'architecture en 2019. Oui. Puisque la lumière est enfin entrée dans ce lieu, en parlant de Notre-Dame, il n'y a qu'à en faire un jardin et puis à pousser ce livre.
Oui, c'est ça. C'est quand on m'a demandé... qu'est-ce que vous en pensez? La Notre-Dame venait de brûler, j'ai dit, ah ben ça c'est super, enfin, on a que la lumière soit et la lumière fut, nous y voilà, on va y voir clair, on va pouvoir faire un jardin, peut-être même une serre, planter aussi à l'intérieur toutes sortes de choses qui sont en rapport avec les symboles végétaux, les symboles de la chrétienté, mais aussi des vignes pour faire du vin de messe direct. Bon, ça a été entendu par quelqu'un dans la salle, qui m'a dit, je commande le livre. Après, à la fin, j'étais complètement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais ça m'a intéressé. Et de ce fait, je suis rentré. Je ne connaissais pas à ce point l'histoire même de cet édifice qui est extraordinaire.
Et vous avez aussi proposé, donc, dans ce plan, un bassin de nénuphars en guise de bénitier. Oui. L'ancien parvis bûcher, où on a brûlé les huguenots, se transforme en jardin, et puis en jardin d'approche. Et puis derrière la cathédrale, il y a un jardin libre, il y a une friche où vont pouvoir s'étendre et s'épandre les espèces sans qu'on les entretienne particulièrement. Mais finalement, ce projet qui a l'air un petit peu fou comme ça, il n'est pas du tout hors sol par rapport à l'histoire de Notre-Dame, Gilles Clément.
Non, il ne l'est pas. Ça respecte les espaces tels qu'ils le sont. Le parvis, d'ailleurs, aujourd'hui, paraît-il, fait l'objet d'un projet. J'espère que ça va s'orienter vers quelque chose qui sera un petit peu plus végétalisé. En tout cas, là, le verger dont vous parlez et que j'ai proposé, la végétalisation, c'est un verger de pommiers.
Oui.
C'est-à-dire de l'arbre qui est à l'origine, paraît-il. Du péché originel. Le nom latin du pommier, c'est malus. Mais là, on a tout changé. Certes, ce sont des fruits qu'on peut manger et cueillir, ce sont des pommes, mais on les appelle au latin bonus. Parce qu'enfin, une pomme chaque jour, la santé toujours. On change un peu les règles et les visions un peu fixées. D'ailleurs, en général, tout ce qui est proposer quelque chose qui n'est pas en rapport avec la reconstitution de quelque chose qui existait auparavant.
Il y a cette idée d'opportunisme biologique, je ne sais pas, les Grecs parleraient de kairos, en tout cas de profiter de l'incendie qui a fait un trou pour faire entrer la lumière et transformer la cathédrale en jardin. Mais ce principe, c'est un principe plus large, plus vaste que vous défendez, cet opportunisme biologique.
Oui, alors, cette chose que je défends, en tout cas que je constate, c'est que les plantes et les animaux se mettent là où c'est facile pour de vivre. Et avec le changement climatique qui est devenu maintenant de plus en plus présent, faisant parfois des désastres, on ne sait pas comment s'y prendre avec ça, mais prendre la décision, par exemple, de supprimer une espèce sous le prétexte qu'elle n'est pas originaire du coin, elle vient d'ailleurs et on la déclare invasive, alors qu'elle est contente de vivre là, c'est peut-être idiot, si pendant ce temps-là, il y a celles qui étaient là depuis longtemps et qui ne supportent pas ce changement et qui vont s'en aller. Si on enlève tout, il n'y a plus rien. Il y en a qui ont compris ce qu'était le mécanisme de l'évolution. Tout change absolument tout le temps. Il y en a qui, au contraire, sont dans une vision fixiste. C'est absolument pas en rapport avec la vie. Là, toujours la vie invente.
Et au fond, la pandémie, les confinements ont été un espace pour l'opportunisme biologique, puisqu'on a vu justement la nature s'inviter dans la
ville. Non seulement ça, mais aussi une démonstration du fait que nous sommes vraiment tous dans la même lessiveuse, le même bain, la même baignoire, c'est-à-dire la biosphère qui entoure la planète, tous concernés exactement de la même façon. Ça touche les pauvres et les riches, même si malheureusement, c'est pas toujours, tout le monde s'en sort pas de la même façon. Mais c'est la démonstration même du jardin planétaire.
Qui est donc l'un de vos concepts de cette interconnexion et interdépendance, en fait, oui. Des hommes et de la nature, enfin, et de cet ensemble du vivant. Mais alors, est-ce que vous avez pensé à prendre contact avec Catherine Deneuve pour marrainer votre projet de Notre-Dame-des-Pentes? Parce qu'en tout cas, elle vous soutient.
Pour moi, Gilles Clément est quelqu'un qui marie vraiment la nature sauvage avec la nature domptée. Le problème, c'est quand l'homme veut trop dompter la nature, que c'est... Moi, on m'avait raconté une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais je trouvais ça tellement joli. On m'avait dit que Louis XIV, quand il avait visité les jardins faits par, ces jardins faits par le nôtre, il lui avait demandé évidemment ce qu'il en pensait. Il disait, c'est très beau, mais il faudra m'y mettre un peu d'enfance.
Catherine Deneuve dans l'heure bleue en 2019 avec Laura Adler sur France Inter. C'est ça aussi le résumé de l'ambition de votre jardin en mouvement, c'est d'y mettre un peu d'enfance.
Oui, il y a par le phénomène même de la surprise, l'émerveillement, l'étonnement, quelque chose qui donc arrive et qu'on n'avait pas prévu. Il y a quelque chose qui a à voir avec l'enfance. Les enfants découvrent tout, c'est leur première dépense d'énergie, je dirais, c'est de découvrir. C'est un travail énorme, fantastique, et quelquefois, ils ont des rêves qui se branchent sur leur découverte et qui sont merveilleux et qu'on doit écouter. Mais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, parce qu'on a besoin de ça. Toute la vie, c'est pas seulement en étant enfant.
Qu'est-ce qui, pour vous, ferait devise pour le futur? Vous aviez parlé à un moment d'un mouvement qui s'appelle l'alternative ambiante, qui se trouvait quelque part entre les dogmes écologiques et puis une forme de développement économique à tout craint, mortifère, peinturluré de greenwashing.
Oui, non, mais là, on doit complètement changer de modèle économique. Retrouver l'usage de ses mains, toute la créativité ne vient pas seulement de quelque chose qui est dû à la raison, à la construction de l'esprit et au cartésianisme. On est aussi dans la réponse à la sensibilité. Et ça, tout le monde l'a, c'est notre part animale, mais à partir de laquelle on peut aussi construire. Mais ça supposerait qu'on aille dans l'espace, sur le terrain, pour se mettre en rapport avec les autres espèces, le vivant, tout le vivant non humain. Un livre qui autrefois était paru sous le nom de Le poireau aime la fraise, et tout le monde se foutait parce que disait, ah ben c'est un truc de vieille sorcière. Non, pas du tout. Savoir qu'il existe un rapport entre les végétaux, par exemple, qui dialogue entre eux, qui échange. Ça peut être des ondes, ça peut être des gaz, on a fini par le comprendre, ça peut être des vibrations, mais il y a des choses très très importantes. Il y a aussi des échanges chimiques. Et à ce moment-là, bah oui, il y a des synergies positives et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et savoir quelle plante on met à côté d'une autre, mais c'est fondamental. Comment se fait-il qu'on soit ignorant à ce point?
Est-ce que pour se tourner vers l'avenir, ce jardinage qui nous attend, que vous appelez de vos voeux, on ne pourrait pas lire la fin, qui est le dernier dialogue entre le préposé aux affaires religieuses et l'herbe libre?
L'herbe demande au préposé, tu vas faire quoi? Poisson volant, préposé aux affaires aquatiques, fumeur? Il le préposé répond. Je voudrais voir l'herbe de plus près, voir les fleurs, les feuilles et les racines, quitte à me mettre les mains dans la terre. Je voudrais savoir aussi où je mets les pieds. Oublier les ordres lisses et les chemins tracés sur l'asphalte, découvrir les invitations à s'évader par le seul fait de regarder une plante en se demandant ce qu'elle fait là. Appeler les arbres par leur nom, quitte à se tromper et les faire rire ou pleurer, je ne sais pas. Je voudrais perdre du poids, pas celui de la graisse qui m'encombre, mais celui bien plus lourd, de la culture en excès où le savoir prend la place du vivre.
Merci Gilles Clément. Notre-Dame des Plantes est publiée chez Bayard, mais tout de suite, les zombies sur France Inter.
Love runs high in this time, give it to me easy. let me try with pleasured hands
to take you in this land to
promised lands
to show you.
Like me, has he taken
any time to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for
like me.
En 1968 sort l'un des plus grands albums de tous les temps, Odyssey and Oracle, le deuxième opus du groupe britannique The Zombies. Et ce titre phare, qui est aujourd'hui presque une utopie, Time of the Season.
Un monde nouveau. Mathilde Serrel sur France Inter.
Un monde nouveau qui existe déjà, qui est palpable, reniflable, caressable même. Et pour partager ce qui aujourd'hui fleure déjà demain, nous accueillons Hervé Poirier du nouveau magazine d'actualité scientifique Epsilon et Sophie Comte, cofondatrice d'un trimestriel éthique de la tech, Chute Magazine. Hervé Poirier, vous êtes l'un des rédacteurs en chef d'Epsilon, comme la lettre grecque, un mensuel tout jeune dont le premier numéro est sorti fin juin et qui raconte la façon dont la science transforme notre monde. Vous venez nous annoncer un changement radical. On a découvert la nouvelle panacée, littéralement le remède universel.
Imaginez une thérapie qui soigne le cancer du pancréas, le sida, la dépression, Alzheimer, la DMLA, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, le diabète, la grippe, le chikungunya, le zika, l'hémophilie, la mucoviscidose, la sclérose en plaques, le cancer du sein, la régénération des os, bref, quasiment toutes les maladies. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et je veux...
Eh bien, Epsilon, on a compté 108 évaluations cliniques actuellement en cours sur cette thérapie-là. Les trois lettres, en fait, vous sont déjà connues, c'est la thérapie ARN. Pfizer, Moderna, les principaux vaccins contre le Covid sont basés sur cette technique. Mais ça dépasse de très loin le traitement de cette maladie infectieuse. En fait, il est très difficile d'imaginer une maladie qui ne pourrait pas être soignée par cette thérapie ARN.
Et comment elle fonctionne pour être efficace sur toutes les maladies, justement, cette thérapie ARN?
Pour comprendre, il faut savoir ce que c'est que l'ARN. L'ARN, c'est les messagers des gènes. C'est ce qui donne l'ordre dans nos cellules de produire les protéines. Or, les maladies, quasiment toutes les maladies, c'est un problème de protéines. Soit il y en a en surabondance, soit il y en a pas assez. Donc les thérapies ARN consistent à envoyer un message à nos cellules pour qu'elles produisent la protéine qui va permettre de soigner. Au lieu de donner directement la protéine, comme la plupart des médicaments le font, on donne à notre propre corps l'ordre de produire ces protéines ou d'empêcher la production d'une protéine qui rend malade. C'est en ce sens-là que c'est une panacée, c'est qu'on s'appuie sur le ressort universel de la vie qui est la production au sein de nos cellules de ces protéines.
Et est-ce que c'est pas dangereux justement de s'attaquer à ce ressort universel de la vie, la production de la protéine? Est-ce que ça va pas nous transformer, nous changer? Est-ce qu'il n'y a pas un côté Frankenstein en fait dans l'ARN?
Ouais, bonne question, parce que le mot ARN, acide ribonucléique, il fait peur. Il fait penser en particulier à ADN. ADN, c'est notre génome, c'est notre identité. Personne ne veut qu'on transforme notre propre génome, personne ne veut devenir un de nos OGM. Mais l'ARN n'agit pas du tout sur notre génome. Il faut bien comprendre que notre génome, il est au cœur du noyau de la cellule. L'ARN, lui, il sort de ce noyau, porteur du petit message génétique, et il va, dans le cytoplasme de la cellule, construire ses protéines. Donc l'ARN ne modifie pas notre génome, c'est juste un message qui est envoyé à la base par l'ADN, mais aussi par les vaccins ou par toutes les thérapies, pour que nos propres cellules nous soignent. Donc il n'y a pas de risque de modification de notre propre séquence génétique personnelle. Les pionniers que nous avons rencontrés à Epsilon de cette thérapie ont commencé à travailler au début des années 2000 et ils ont eu très peu de financement. Ils ont rencontré énormément d'indifférence, voire de méfiance. Aujourd'hui, on pressent qu'ils vont avoir le prix Nobel dans un an ou deux, tellement il n'y a plus aucune université qui ne voit pas ces thérapies ARN comme l'avenir glorieux de la médecine.
La révolution ARN, hein, ça sera au cœur du deuxième numéro d'Epsilon. Il est tout chaud d'ailleurs, il est en kiosque depuis ce mercredi. C'est à vous Sophie Comte, cofondatrice et directrice de la rédaction de Chute Magazine. Un autre petit nouveau hein, dans le monde de la presse, une revue qui explore l'impact du numérique dans nos vies et qui milite pour plus de responsabilité, d'éthique et de diversité dans la tech. D'ailleurs, vous appliquez ce que vous prônez, c'est une revue qui est essentiellement tenue par des femmes. Et justement, Sophie, dans le monde de la tech, en général, il y a un vent féminin qui se lève, une vague de nominations féminines, comme Corinne de Bilbao qui a pris ses fonctions à la tête du géant Microsoft.
Oui, tout à fait. Alors, Corinne de Bilbao, début juillet, mais également 5 autres femmes depuis quelques mois. Émilie Sidikian à la tête de Salesforce en mai dernier. Béatrice Kozowski, présidente d'IBM France également depuis décembre 2020. Karine Picard, qui dirige Oracle France. Ou encore Adair Fox-Martin, qui dirige la présidence d'Europe de Google Cloud EMEA. Alors, ces nominations, elles ont lieu très souvent. Mais pourquoi celles-ci, elles méritent d'être présentées ici? Eh bien, parce que le numérique est un secteur qui est largement dominé par les hommes. Selon l'étude GenderScan de 2019, elles seraient 30% dans les métiers du numérique. Mais si on s'intéresse aux métiers techniques du numérique, elles ne sont plus que 10%. Donc, ces métiers techniques, c'est les métiers de développeuses web, data scientist, data analyst, des métiers aujourd'hui qui sont devenus cruciaux à une ère où on développe des outils numériques et technologiques énormément.
Et cette sous-représentation, au fond, c'est pas simplement une question de parité, ça a aussi un impact sur le réel et la façon dont le miroir qu'est le numérique nous le présente.
Tout à fait, oui. Parce que ces outils sont majoritairement conçus, imaginés, créés par des hommes, eh bien, on se retrouve avec des outils qui ont des biais sexistes. Prenons très simplement hein, l'exemple que propose Isabelle Collet, qui est chercheuse sur le sujet des femmes et du numérique, qui propose de taper écolier sur Google Images. Alors là, si vous tapez écolier, vous aurez plein plein d'exemples de jeunes garçons très sérieux derrière, derrière leur table d'écolier. Mais si vous tapez écolière, eh bien, je vous conseille de ne
de
pas
faire
montrer l'écran à vos enfants.
On a plutôt une femme sexy, c'est ça, avec des couettes et un cartable sur le dos?
C'est exactement ça. On
voilà.
trouve toutes ces discriminations aujourd'hui de plus en plus. Et puis le problème aussi, c'est que ces métiers du numérique sont très recherchés et très rémunérateurs. Et du coup, le fait que les femmes soient peu présentes, ça accentue également les inégalités salariales.
Et en fait, ce n'était pas le cas au départ. Finalement, elles étaient là en premier, les femmes, sur la tech et sur le numérique.
Exactement. En fait, j'aurais envie de dire l'histoire nous l'enseigne, mais pas du tout. L'histoire ne nous l'a pas enseigné. Les femmes ont été présentes dans l'informatique et ce sont même de grandes figures marquantes qui ont largement contribué aux innovations du secteur. C'est une femme, Ada Lovelace, la fille de Lord Byron, qui a conçu le premier algorithme en 1943. C'est aussi une femme, Hedy Lamarr, qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le Wi-Fi. C'est encore une femme, Grace Hopper, qui a imaginé le code à la façon d'un langage, une technique qui est toujours utilisée aujourd'hui. Ou encore Margaret Hamilton, qui est derrière la mission Apollo 11. On peut citer également une femme, une Française, Alice Recoq, qui a développé les premiers algorithmes d'intelligence artificielle dans les années 70.
Et pourtant, ces rôles modèles, donc ces figures d'inspiration, comme on les appelle, ne sont pas enseignées ni transmises, ce qui aurait vraiment des vertus, puisque ça permettrait peut-être de donner à des écolières à couettes l'envie d'être des futures Ada Lovelace.
Exactement, oui. Le problème, ce qui s'est passé en fait dans l'histoire de l'informatique, c'est que à partir des années 80 et plutôt 90, en fait, le secteur du numérique a explosé, est devenu un secteur à enjeu économique fort. Et à ce moment-là, en fait, on a la formation autour des métiers s'est structurée et on a beaucoup plus orienté les garçons, les hommes vers ces métiers-là. Et du coup, on a aujourd'hui l'impression que les femmes n'ont jamais été dans l'informatique parce que les hommes ont pris vraiment ce secteur des technologies pour eux. Et voilà, le problème, c'est que ces rôles modèles ont disparu. Finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec une figure du geek. On a tous un peu ce stéréotype dans la tête. Quand on parle de tech et de numérique, on voit ce jeune homme blanc derrière un écran avec une capuche. Voilà. Et ce stéréotype, eh bien, il fait vraiment beaucoup de mal à la tech, finalement, parce que les jeunes filles, elles ne s'identifient pas, elles ne se reconnaissent pas dans les métiers du numérique. Donc, il est très important de travailler ces rôles modèles et notamment en mettant en avant toutes ces figures féminines du passé et d'aujourd'hui, ces géantes de la tech qui aujourd'hui dirigent les grandes entreprises mondialement connues.
Les géantes de la tech, c'est le slogan de ce monde nouveau avec Chute Magazine. Le dernier numéro est disponible actuellement en kiosque et en librairie. Amour avec ou sans contact. Merci à vous Sophie Comte, vous êtes la cofondatrice de Chute Magazine. Et merci à Hervé qui était avec nous, donc rédacteur en chef d'Epsilon, Hervé Poirier. Epsilon, le nouveau numéro sur la révolution ARN est disponible depuis ce mercredi. Ils sont devenus des ambassadeurs de la canopée dans le monde entier. Leur premier album, Caravelle, en 2017, s'est envolé aux quatre vents du globe. Disque d'or en France, succès de platine à l'export, le duo Voyageur est accueilli sous les hurrahs qu'il aille aux États-Unis ou en Géorgie. Polo et Pan sont mes invités dans un monde nouveau. Nouvel album, Cyclorama, nouvelle tournée. Et une question d'abord, vous êtes vaccinés ?
Et oui, moi je viens juste de me faire mon premier et seul vaccin parce que j'ai aussi eu le Covid.
Et moi, j'ai eu la double dose, preuve que je l'avais pas eu.
Caressé par le vol d'un colibri.
les jolies choses sur France Inter. Avant-dernier morceau de Cyclorama, le nouvel album de Polo et Pont, qui est conçu comme un cycle de vie de la berceuse au Requiem, en passant par ce paradis perdu des jolies choses et de l'enfance. Vous explorez le temps davantage que l'espace dans cet album. Pourquoi Polo, Pont ?
Tu as fort bien répondu à ce que je m'apprêtais à dire. Voyage dans le temps, parce qu'à un moment donné, le temps s'est quelque peu arrêté et nous a permis de le contempler. On a été observateur de beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans nos vies.
Avec cette année de Covid, en fait, on a eu un moment où tout s'était un peu sorti de nos vies. Du coup, on s'est naturellement un peu posé ce questionnement sur la vie. On a un peu pensé à la mort aussi. Je pense que tout le monde a été un peu face à ça. Surtout au début, on s'est dit c'est une maladie très dangereuse. Est-ce qu'on va tous y passer? Ça s'est un peu transcrit dans l'album. On a vu que ces chansons arrivaient et que on pouvait créer un fil narratif pour relier toutes nos chansons en parlant un peu de ce thème. On aime bien faire ça pour nos albums, raconter des histoires en plus pour interroger nos auditeurs et qu'ils puissent réfléchir à ces grandes questions.
Vous partez d'abord des histoires.
En fait, sur Caravel, c'est comme ça qu'on a conçu l'album. Effectivement, on a commencé par poser sur papier, en y apposant des images ou des mots-clés, des histoires. Le deuxième album s'est fait de façon beaucoup plus, intuitive, parce qu'on a beaucoup tourné. Et en fait, on a commencé notre album dans la continuité du premier, en voyageant. On a commencé à faire nos productions, non plus en studio, mais dans les avions, dans les trains. Et en fait, il y a eu quelque chose de beaucoup plus naturel et moins intellectualisé, je dirais.
Et on a l'impression, puisque ça s'est fait instinctivement, qu'il y a une forme de pollinisation musicale, en fait, dans votre travail. C'est comme si ce que vous aviez récolté, que ce soit de la musique amérindienne, de la disco italienne, des orchestrations de chez Vladimir Kosma ou des grands films de western. Mmh. Vous seriez d'accord avec ce parallèle végétal ?
Moi, c'est par exemple un désir que j'ai eu depuis la genèse du projet, c'est effectivement de nous répandre de façon vertueuse. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé par mettre nos prods sur Internet, gratuitement, pour qu'elles puissent toucher une audience assez large. Et au final, on se rend compte que les interactions se font comme ça. Quand on pose des petites pierres ou du pistil, et qui se répand naturellement par le vent, il y a forcément quelque chose de vertueux qui en découle.
Ça, c'est votre Annie Cooney, Polo et Pan, le premier extrait qui est sorti de ce nouvel album, Cyclorama. Les recettes sont reversées à une association qui protège les populations autochtones amérindiennes. C'était l'idée d'être un peu cohérent, justement, d'être pas simplement conquérant de nouvelles graines musicales que l'on exploite, mais de redistribuer aussi.
Bah, premièrement, ça sonne comme une évidence. Dès lors que on interagit culturellement avec une autre communauté, on se doit de trouver un point d'entente. C'est ce qu'on a toujours fait, que ce soit musicalement, par exemple avec les samples, il faut se mettre d'accord avec un ayant droit. Là, alors qu'il y avait le Covid, on n'a pas pu justement interagir de la bonne façon. Ça n'est qu'un début, mais évidemment les bénéfices, ça semble naturel, ça semble évident.
Ouais, c'est vrai qu'on avait plus l'envie toujours de collaborer, d'aller enregistrer. On n'a pas pu le faire comme ça. Finalement, on a fini par enregistrer un chœur. C'est nos petites amies, des enfants de nos copains qui chantent. Et on a enregistré ça dans un vieux Revox années 70 pour avoir un peu ce son. Du coup, on a trouvé cette association déjà pour créer un lien. Et ensuite, l'idée, ça va être d'aller leur rendre visite et peut-être créer un autre niveau de collaboration. C'est une association qui s'occupe des enfants, donc on aimerait bien faire un atelier pour les enfants, peut-être réenregistrer la chanson, faire quelque chose sur scène avec eux. Enfin voilà, il y a pas mal d'idées. Ça devrait se passer à partir de décembre, ça, au moment de notre tournée américaine.
Alors, il y avait cette version en France lorsque Annie Cooney a été découverte, que j'aime beaucoup. La face B de C'est ça la France, de la chanteuse culte israélienne disparue en 2020, Rika Zaraï, présente ce magnifique Annie Cooney, psyché orientale. Vous, vous donnez quel sens à votre Anikouni, qui est une chanson millénaire que l'on peut interpréter pour des morts, des naissances, et tout un tas d'événements?
Exactement. Ce qui est assez fascinant, c'est la double lecture de ces paroles. C'est que dès lors que c'est chanté lentement et lassivement, c'est pour honorer, par exemple, notamment des enterrements ou des événements assez tragiques ou des fins de vie. Et dès lors que on la chante de façon, on va dire,
enjouée,
rapide, en fait, elle est là pour célébrer des mariages et des événements heureux. C'est en ça, d'ailleurs, que c'est fascinant. C'est que la façon qu'on a d'utiliser des mêmes termes, la double lecture, peut prendre des sens différents.
Et mais c'est vrai qu'on s'est intéressé à cette chanson. On a vu qu'elle avait 1400 ans, qu'elle appartenait à plein de communautés différentes. Et on a compris que, voilà, si on voulait faire une version, il fallait l'accélérer si on voulait faire une version heureuse qui soit cohérente avec le sens du texte, quoi.
Alors, vous dites que vous voyagez dans le temps, dans ce disque Cyclorama, on y croise quelle réminiscence musicale?
Moi, je peux parler d'une chanson en particulier, Artemis. C'est une chanson qui vient. Mon grand-père l'a joué ce morceau de Bach à la guitare. Mon père aussi, il me l'a appris. Et j'ai décidé de la modifier un petit peu, de la mettre en musique. Et donc voilà, il y a quelque chose vraiment de transmission intergénérationnelle. C'était une chanson qui n'était pas forcément destinée à Polo et Pan tout au début. Mais quand Alex l'a entendue, il a voulu l'arranger. On l'a travaillé ensemble et on en a fait quelque chose qui était, voilà, plus. Voilà, c'est, à la base, c'était vraiment quelque chose justement qui venait d'un héritage et d'une sensation musicale qui vient vraiment, voilà, de ma petite enfance.
Et Bill Bocquet, ça vient d'où, ça?
Bill Bocquet, je pense que c'est quelque chose qui illustre assez bien justement le sujet de l'album, à savoir les cycles et la transmission. Ça, c'est un morceau qu'on a fait de par notre rencontre avec Vladimir Cosma, qui en est évidemment l'auteur.
C'est la musique du Grand Blond avec une chaussure noire.
C'est la musique du Grand Blond. Et on a eu la chance un jour d'être contacté par Monsieur Cosma en personne pour collaborer avec lui. Et en fait, de l'appeler, c'est un père spirituel ou même un grand-père spirituel pour nous. Et d'y apposer le nom Bill Bocquet plutôt que Papy, ça prenait tout son sens parce que finalement, on y trouve tous les trois, avec Cosma, une forme de jeunesse et une forme, un relais en tout cas, générationnel.
Et le futur alors, il est où dans Cyclorama? Dans Tunnel, peut-être?
C'est vrai que ouais, Tunnel, c'est un peu une nouvelle page pour nous de collaborer avec un artiste comme Channel 13. C'est
qui est un rappeur californien.
Exactement, de Compton, de Los Angeles. Et qui, c'est un peu pas notre univers, c'est plus urbain. C'était une nouvelle page pour nous. C'est un morceau un petit peu plus sombre, il est un petit peu plus nocturne, quoi, par rapport à ce qu'on a pu faire avant. Et ouais, c'est comme une nouvelle page musicale pour nous.
C'est aussi une nouvelle façon, en fait, de collaborer. C'est peut-être en ça le futur, c'est que on a dû aussi s'adapter encore une fois aux conditions et on a travaillé à distance sans se rencontrer. Par les moyens technologiques modernes, on s'est envoyé des freestyles, des productions, on a interagi comme dans le futur.
Dans le futur, il va se passer d'autres choses et je voudrais faire découvrir un duo nantais, La Botanique. Ils se sont lancés un pari fou, faire chanter les plantes. Et si pour mieux comprendre le vivant, il fallait savoir lui donner la parole et l'écouter.
Été 2021, avec le professeur Lagraine, nous pensons avoir mis au point une méthode permettant le dialogue avec l'ensemble du règne végétal.
Deliciosa, tu me tues.
Seulement quelques mois plus tard, dans notre laboratoire, avec les plantes, nous pouvions communiquer après avoir installé le système de traduction vocale développé par la graine pour traduire le signal végétal du spécimen d'étude Monstera qui fit notre infortune. En effet, nous ne comptions plus les heures à dialoguer avec ces fleurs.
Je suis vivante. Je suis vivante.
Je suis vivante, je suis une plante. Renaud Monet et Thomas Cuccini, c'est le duo de La Botanique. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous faites parler les plantes?
Alors, de deux manières. La première, c'est d'abord en leur donnant un nom, puisqu'en fait, en leur donnant un nom, on les considère et donc du coup, elles deviennent vivantes. Et l'autre manière, c'est par la conductivité électrique. C'est un petit système qu'on a mis au point. Et quand on touche les plantes, elles émettent des sons. Il faut venir nous voir sur scène pour découvrir ça.
Donc on frotte légèrement la feuille de la plante et soudain elle se met à émettre un son.
En fait, ouais, on établit un contact entre la main et la feuille du végétal et cet échange entre les deux vivants permet de créer un son.
Alors c'est un disque où l'on croise différentes plantes, la valériane par exemple, qui a beaucoup de choses à dire sur notre époque très stressée.
Madame, soyez sans crainte, j'ai pour vous des substances, quelques gouttes de valériane à plonger dans un verre d'eau.
Ouais, en fait, sur ce disque, il y a 9 titres qui sont 9 histoires de plantes. Et à chaque fois, on a étudié une plante, on a regardé l'histoire qu'elle a en commun avec toute l'espèce humaine. Et la valériane, notamment, puisqu'on est des grands insomniaques tous les deux, on s'est rendu compte qu'elle permettait de traiter l'insomnie. Et donc, c'est un prétexte pour plonger dans le monde des rêves.
Il y a aussi dans le syndrome du banlieusard un grand mélange, en fait. Donc, c'est pas simplement des histoires de plantes, c'est des histoires d'hommes.
Et vous citiez le polypode vulgaire, qui est le syndrome du banlieusard. Et en fait, cette plante, finalement, elle pousse sur des vieux murs, un peu partout, les pieds dans le béton. Et pour nous, elle était une représentation de notre enfance en banlieue. Finalement, moi, ça m'a toujours marqué. J'ai rencontré des gens un peu partout de la France et quand je leur disais je venais de banlieue, ils me disaient c'est quoi les spécialités culinaires de ta région, etc. Et je n'en avais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le métissage qui faisait la richesse de cette banlieue. Et en fait, ce polypode, c'est vraiment cette plante qui pousse là où on ne l'attend pas. Donc en fait, elle représente ce qu'on est en tant que banlieusard.
Il y a aussi un maître à penser, en tout cas un inspirateur, pollinisateur lui aussi, c'est l'anthropologue Philippe Descola qui préside à l'écriture de ce disque, qui dépasse justement le concept nature-culture. Et au fond, ça c'était un peu théorique, votre disque, c'est l'application pratique ?
Ouais, en fait, dans notre société moderne, on a créé le mot nature. Il y a des sociétés où ce mot n'existe pas, tout simplement. Et en fait, le fait qu'il n'existe pas, ça fait que les humains ne vont pas se penser en dehors de la nature. Nous, il existe, donc il faut faire avec. On peut plus enlever ce mot de notre vocabulaire. Mais nous, on a envie de se repenser dans cette nature et dans ce végétal. Parce qu'en fait, le végétal, ça peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais ce ne sont pas des meubles, ce sont des êtres vivants. Et nous, on trouve ça très intéressant de prendre la posture du végétal qui est immobile, qui ne parle pas et qui nous regarde autant qu'on le regarde. Et donc finalement, regarder le monde à travers ce prisme végétal, ça permet de questionner notre humanité et ce qu'on est en tant qu'être vivant.
Et lui donner donc la parole. C'est un peu votre choix littéraire à vous, choix d'essai en tout cas, le livre de Philippe Descola, Renan. Et je voudrais maintenant qu'on écoute les choix de Polo et Pan, parce que ce qui nous a paru important, là où on parle de transformation du réel, c'est de célébrer les 40 ans de la loi sur le prix unique du livre. C'est comme ça, finalement, que la biodiversité littéraire s'est préservée entre petites librairies, grandes surfaces, petits tirages et gros tirages. Et donc, qu'est-ce que vous nous avez amené, Polo et Pont, respectivement, pour célébrer ensemble le livre.
Moi, par exemple, il y a un livre que j'aurais pas aimé qu'on m'offre.
On te l'a offert ? Mais on te l'a offert ?
On me l'a pas offert.
D'accord,
heureusement.
Tout va bien.
Mais c'est le livre de Peter Pan, celui de James Matthew Barry, la vraie histoire, qui dépeint un Peter Pan malveillant, violent, qui tue les enfants qui arrivent à l'âge adulte, qui les amène dans cette île et qui est d'une cruauté sans nom. Parce que je me suis dit que si j'avais 7 ans et que on me fait découvrir le Peter Pan revisité de Disney, en fait, ça m'a ouvert tellement de choses merveilleuses. Cette innocence m'a permis, voilà, de construire de façon harmonieuse mes émotions. Et je crois que cette temporalité-là d'innocence est aussi importante que la conscientisation.
Et alors pour vous, Polo, quel est le livre donc que vous avez choisi, le livre que vous auriez aimé qu'on vous offre ?
J'ai choisi quelque chose de plus classique. Je pense que c'est un des plus grands classiques de la littérature, c'est l'Odyssée d'Homère, et que j'ai lu, je pense, quand j'avais 12 ans ou 13 ans. Et j'aime bien les grandes histoires épiques. Et je pense que le thème de Caravelle, dans nos albums, on peut sentir un peu ça, cette envie de voyage. Quand on arrive à montrer ça à des jeunes enfants, c'est quelque chose à la fois très fin. Il y a toutes les histoires, voilà, il y a vraiment des histoires d'une grande profondeur, mais en même temps, c'est accessible à tous les êtres humains puisque c'est des histoires qui traversent le temps. parce qu'elles sont aussi puissantes, elles connectent vraiment très fort. C'est des histoires archétypales super fortes. Et j'adore ce livre. Voilà.
Polo et Pan, merci. À tous les deux, Polo et Pan d'abord, et puis cette tournée française et états-unienne qui s'annonce. Quelques dates qu'on peut donner, notamment le 29 août à Marseille, le 9 novembre à Nice, et puis Brooklyn, Washington, Chicago. L'expression végétale, celle de la botanique, vous la découvrez dans des concerts, comme à l'usine végétale au Fieu le 31 juillet, et dans cet album, Expression végétale. Merci à tous les trois, merci aux plantes et aux vivants. Un monde nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Colli à la réalisation, Camille Pouge-Alaguier et Marie Mougin à la programmation et préparation de l'émission, sans oublier Lily Cornillac et Anaïs Dinarc qui nous ont rejoints cet été. À la technique ce soir, Louis Audebert.